Vous écoutez On lit pour vous.
Quand la pénurie de logements complexifie le recrutement d'enseignants, un texte de Zacharie Goudreau, paru le 28 août 2024, dans Le Devoir. La pénurie de logements locatifs complexifie le recrutement d'enseignants dans plusieurs régions éloignées du Québec, où les centres de services scolaires, CSS, doivent accompagner du mieux qu'ils le peuvent leurs nouvelles recrues pour les aider à se loger, allant parfois jusqu'à leur offrir eux-mêmes un appartement. Pour certains, l'impact sur leurs finances est majeur. Sur la Basse-Côte-Nord, le CSS du littoral a conclu en juillet 2024 un contrat de gré à gré d'un an avec un résident afin de lui louer une résidence située à Blanc-Sablon, où demeure depuis une enseignante provenant de l'extérieur de la région. La transaction s'élève à 28 376,76 $, ce qui équivaut à un loyer d'environ 2 365 $ par mois. La somme que débourse l'enseignante qui y loge s'élève toutefois à tout au plus quelques centaines de dollars. Le CSS assume le reste de la facture en vertu de clauses de disparité régionale inscrites aux conventions collectives des enseignants et qui s'appliquent dans quelques communautés éloignées, situées notamment sur la Côte-Nord, dans le nord du Québec, ainsi qu'en Abitibi-Témiscamingue. C'est dans ce contexte que le CE2S du littoral s'est constitué un parc immobilier de quelques dizaines de logements au fil des années. Il arrive cependant, de temps à autre, que les appartements sous sa gouverne ne soient pas suffisants pour loger tous ses employés provenant d'autres régions de la province, explique la directrice des ressources humaines du CSS, Valérie Roux. Dans ces cas-là, on a recours à des demandes de location auprès de particuliers, ajoute-t-elle. Des transactions qui ont forcément un impact financier sur l'organisation, qui doit d'ailleurs assurer l'entretien de ces logements, relève-t-elle. Or, fournir des logements subventionnés aux enseignants, c'est un élément essentiel à leur recrutement, constate Mme Roux. Sans ça, ce sera encore plus difficile d'en recruter pour nos établissements scolaires. Un impact énorme. Un constat que partage la commission scolaire Kativik au Nunavik, qui fait toutefois face à une pénurie de logements d'une ampleur incomparable. L'organisation qui gère plus de 400 logements destinés à ses employés chiffre à plus de 150 les appartements additionnels dont elle aurait besoin pour les loger convenablement. Puisque construire un seul logement coûte au bas mot 1,4 million de dollars dans cette région tout au nord du Québec, l'organisation chiffre à 210 millions de dollars la somme dont elle aurait besoin pour construire les logements qui sont manquants pour héberger ses employés. Et c'est sans compter les défis financiers auxquels l'organisation fait face pour maintenir en bon état son parc immobilier actuel. La pénurie de logements au Nunavik a un impact énorme sur le secteur de l'éducation. Elle affecte le recrutement, la rétention et l'égalité des conditions de travail pour tous nos employés, souligne la directrice générale de la commission scolaire Kativik, Ariette Kelutak. Car actuellement, des enseignants sont contraints de partager leur logement avec d'autres collègues qu'ils ne connaissent pas, tandis que la commission scolaire est contrainte de supprimer certains services, non pas par manque de main-d'œuvre, mais à cause du manque de logement, déplore la gestionnaire. Cette dernière s'attend ainsi à ce que la question de l'accès au logement soit un des enjeux clés des négociations pour le renouvellement des conventions collectives des enseignants du Nord québécois, qui se poursuivent avec l'État québécois. Accompagner le personnel. Le CSS de la moyenne Côte-Nord, pour sa part, n'a pas accès aux mesures budgétaires qui permettent de financer la construction de logements pour héberger des enseignants dans certaines régions éloignées du Québec. La pénurie de logements y est toutefois un enjeu important qui complexifie le recrutement de personnel dans ce secteur, souligne son directeur général, Éric Fagui. C'est bien entendu qu'on a beau déployer tous les efforts possibles pour embaucher des perles rares pour venir travailler dans nos établissements scolaires. Si on embauche un employé qui habite très loin d'ici, qu'il arrive ici et qu'il n'est pas capable de se loger, bien tous les efforts qu'on a consentis pour le recruter sont vains, dit M. Fagui. Le CSS s'assure ainsi d'accompagner le plus possible les nouveaux employés afin de les mettre en contact avec des gens dans la communauté qui pourraient avoir des appartements ou des maisons à louer, poursuit-il. Le CSS de Charlevoix a pour sa part décidé de prendre le taureau par les cornes après avoir constaté que la pénurie de logements nuisait à ses efforts de recrutement de personnel. Depuis environ 2 ans, il loue ainsi quelques logements pour y héberger des membres du personnel nouvellement embauchés, indique l'organisation par courriel. Ils peuvent occuper un logement pendant une courte période au moment de leur arrivée dans la région, le temps de trouver un lieu de résidence qui leur convient, ajoute le CSS. Des services de garde complets. Aux îles de la Madeleine, même si la pénurie de logements locatifs est importante, la pénurie de places en garderie est encore plus criante, estime la directrice générale du CSS des îles, Isabelle Gilbert, qui souligne que cette situation est liée au manque d'éducatrices que réussissent à embaucher les centres de la petite enfance de la région. Des enseignants ayant des enfants décident ainsi de ne pas travailler dans des écoles de l'archipel parce qu'ils sont incapables de trouver un endroit où faire garder leurs enfants. Les enseignants et le personnel professionnel, qui souvent pouvaient venir de l'extérieur de la région, bien, ils tentent de trouver des places en service de garde, et c'est très difficile, relève elle aussi la directrice générale du CSS de l'Estuaire, à l'entrée de la Côte-Nord, Nadine Desrosiers. On a beaucoup de services de garde qui ont fermé sur le territoire dans les derniers mois, mais on n'a pas beaucoup de pouvoir là-dessus. C'était quand la pénurie de logements complexifie le recrutement d'enseignants, un texte de Zachary Goudreau, paru le 28 août 2024 dans Le Devoir.
Quand les guêpes s'invitent à l'apéro, un texte de Léa Carrier, paru le 31 août 2024 dans La Presse. Ce n'est pas votre imagination. Les guêpes font un retour en force. Pourquoi semblent-elles soudainement partout? Et comment s'en débarrasser? Quelques conseils pour les tenir loin de la terrasse ou de la table à pique-nique d'ici la fin de l'été. Invité indésirable. Vous avez à peine le temps de vous installer à table que le bourdonnement d'une guêpe vous fait pousser un juron. Patience, car il faudra cohabiter encore quelques semaines avec ses copines, plus nombreuses à cette période de l'année. C'est au mois d'août et de septembre qu'on voit le plus de guêpes, explique Étienne Normandin-Leclerc, entomologiste et coordonnateur des collections d'insectes à l'Université de Montréal. La raison est simple. Les colonies atteignent leur maturité à la fin de l'été. Seules à hiberner durant l'hiver, les reines commencent à pondre leurs œufs au printemps. Plus la saison avance, plus la colonie s'agrandit. Une fois terminée, un seul nid peut atteindre la taille d'un ballon de basketball et abriter plusieurs centaines de guêpes, sillonnant les parcs et les terrasses environnantes en quête de nourriture. Fait intéressant. Ce sont les femelles qui sont les plus susceptibles de ruiner l'apéro. Les ouvrières vont chercher beaucoup plus activement de la nourriture à l'extérieur parce qu'elles doivent nourrir les larves, explique le spécialiste. Dents sucrées. Une guêpe tournoie au-dessus de votre table depuis une demi-heure? Bouchez les bouteilles de vin, débarrassez les restes de table et assurez-vous d'avoir bien fermé les poubelles. Les guêpes sont attirées par l'odeur de nourriture et elles raffolent du sucre. Même quelques gouttes de boisson gazeuse tombées sur le sol peuvent représenter un véritable festin. L'odeur de fermentation les attire aussi, indique Étienne Normandin Leclerc. La fermentation dégage des molécules qui sont détectables beaucoup plus loin que d'autres molécules, explique-t-il. Comme les abeilles, les guêpes affectionnent aussi les fleurs, particulièrement les mâles. Piège. Plusieurs moyens existent pour éloigner les guêpes, certains plus efficaces que d'autres. Les pièges, qui utilisent une gelée sucrée, peuvent être une solution facile, mais ils ont aussi l'effet inverse d'attirer plus de guêpes. S'il y a un nid pas loin, ça peut être utile de mettre un piège parce que de toute manière, les guêpes sont proches. Mais s'il n'y en a pas tant que ça, il vaut parfois mieux les tolérer, conseille M. Normandin Leclerc. Souvent utilisées en camping, les spirales qu'on brûle pour repousser les moustiques peuvent également se révéler efficaces contre les guêpes en camouflant l'odeur de nourriture. Et les aérosols? Le spécialiste ne les recommande pas. En plus d'avoir un effet relativement temporaire, ils présentent un risque pour les personnes allergiques aux piqûres de guêpes. Les guêpes vont devenir agitées au moment de la vaporisation, explique-t-il. Mise en garde. Vous venez de découvrir qu'une colonie a élu domicile sous votre balcon? Surtout, ne jouez pas les héros en tentant d'enlever le nid vous-même. En cette saison, mieux vaut faire appel à des professionnels. Tenter de détruire un gros nid de guêpes en fin d'été est dangereux, prévient le professeur associé de l'Université Laval, Conrad Cloutier, évoquant le risque d'être piqué par plusieurs guêpes à la fois. De manière générale, plus le nid est petit, plus il est facile à enlever. Ainsi, le début de l'été constitue la meilleure période pour inspecter sa résidence. Il faut détruire les nids en formation au début de l'été, dès qu'on note leur présence, dit-il. Quelles espèces de guêpes vivent au Québec? S'il existe des centaines d'espèces de guêpes au pays, la plus connue est la guêpe à papier, aussi appelée guêpe sociale. Comme son nom l'indique, elle construit des nids de papier aériens ou souterrains, plus dangereux pour l'humain car plus difficile à détecter. Au Québec, la guêpe germanique striée de jaune et noir est l'une des plus communes. C'est elle qu'on voit le plus souvent lorsqu'on mange à l'extérieur, note Étienne Normandin Leclerc. Sa cousine, la guêpe à taches blanches, est aussi très répandue. Avis aux résidents de l'Outaouais. Ouvrez l'œil et vous aurez peut-être la chance d'apercevoir un frelon européen dont la taille peut dépasser de 2 à 3 fois celle de la guêpe à taches blanches. C'est une guêpe assez impressionnante, souligne-t-il. C'était « Quand les guêpes s'invitent à l'apéro », un texte de Léa Carrier, paru le 31 août 2024 dans La Presse.
Papy, le peintre qui n'était pas peintre. Une entrevue réalisée par Frédéric Charret, parue le 23 août 2024 dans la revue Virage. C'est au crépuscule de sa vie que Clément Gravel, alias Papy, a vécu son aube artistique, donnant son premier coup de pinceau à 91 ans pour égayer les derniers jours de son épouse, puis pour soulager son deuil. 9 ans et quelques 500 tableaux plus tard, l'artiste peintre estime avoir signé son œuvre testament. Dans la vie, ça prend ce que j'appelle des électrochocs. Les miens auront été l'amour et la douleur. C'est ainsi que Papy, installé dans le salon de sa demeure de Lévis, dont les murs et même des bouts de plancher sont tapissés de tableaux, évoque la genèse d'une passion qui l'aura mené jusqu'au Musée national des beaux-arts du Québec, MNBAQ. Ouvre tes yeux. En 2016, son épouse Pauline, son trésor et sa force durant 60 ans, vit ses derniers mois à l'hôpital. Chaque matin, il se rend à son chevet. Moi, à ce moment, je suis en train de perdre mon amour. Ça me fait mal. Je me sens étouffée. Mais il y a aussi le bonheur d'être avec elle, dit Clément Gravel, alias Papy. Un jour, Pauline lui offre un paquet cadeau. Des pinceaux, de la peinture, quelques toiles. Étonnante offrande! Clément Gravel n'avait alors jamais peint de sa vie, ni même en rêve. Qu'importe. La nuit venue, incapable de dormir et hanté par la souffrance de sa compagne, le nonagénaire descend au sous-sol, déballe son matériel et se met à l'œuvre. Le lendemain, de retour à l'hôpital, il dévoile à sa muse les fruits de son inspiration. Je me suis couché à côté d'elle et je lui ai dit « Ouvre tes yeux ». D'habitude, elle pleurait le matin. Là, elle a souri et elle s'est mise à rire. Moi, j'ai trouvé ça beau. La journée même, il est allé au magasin d'art pour s'acheter des fournitures, puis s'est aménagé un atelier de fortune dans son sous-sol. Il n'y avait plus rien pour l'arrêter. Un rythme effréné. Avant de rendre son dernier souffle, Pauline demande à son mari de lui faire une dernière promesse, celle d'exposer un jour ses toiles au MNBAQ, un lieu que les amoureux chérissaient particulièrement. Le peintre qui n'était pas peintre s'est alors mis à peindre à un rythme effréné. Comme une bouée de sauvetage multicolore, ses pinceaux lui permettent de canaliser son chagrin, de donner un sens à la vie et à la mort, de maintenir un dialogue avec celle qu'il venait de perdre. Au fil du temps, son récit improbable suscite la curiosité, puis l'admiration dans le milieu des beaux-arts. Après tout, se découvrir une nouvelle vocation artistique si tard dans la vie, c'est assez extraordinaire. En 2022, c'est la consécration. 6 de ses acryliques sont retenus dans le cadre d'une exposition qui souligne le potentiel thérapeutique de l'art présenté au MNBAQ. Pauline pouvait alors se reposer en paix. « Sincèrement, j'ai toujours fait ça pour elle, » dit-il. À preuve, il n'a jamais vendu une toile, et ce, malgré de nombreuses offres. En revanche, il en a offert à des œuvres caritatives. Lorsqu'il ira rejoindre l'amour de sa vie, ce sera à ses enfants de décider du sort de ses centaines de tableaux. De l'indignation à l'inspiration. Dans quelques jours, Papy aura 100 ans. De son propre aveu, il commence à ralentir, s'éteindre même. Mais si son parcours devait s'arrêter aujourd'hui, il serait heureux de son legs artistique. « C'est mon plus récent tableau, » lance-t-il, le regard porté vers la grande toile qui trône devant la fenêtre de son salon. « C'est l'une des peintures qui représente le mieux ma pensée. Je voudrais qu'elle fasse du chemin. » Sur l'œuvre, le visage d'un loup, menaçant, se profile au milieu d'éclats de rouge et de jaune. La scène traduit l'indignation croissante de l'artiste provoquée par les images d'enfants abattus en Palestine et en Ukraine, mais aussi par les multiples gestes de maltraitance qui ciblent les personnes âgées. Ce dernier point semble particulièrement l'émouvoir. Ça n'a pas de bon sens. Les vieux sont délaissés, martèle-t-il d'une voix assurée. Quand une personne a travaillé toute sa vie, il me semble qu'elle mérite de mourir dans un beau lit. Avec ses peintures et ses nombreuses interventions médiatiques, Clément Gravel espère contribuer à sa manière à une prise de conscience sur le vieillissement, un réveil collectif pour lutter contre l'indifférence, l'infantilisation et la négligence. Ils souhaitent aussi servir d'exemple, voire d'électrochoc, pour celles et ceux qui voudront bien l'écouter. La vie ne s'arrête pas à la retraite. On n'est pas des bons à rien. Il y a certainement d'autres vieux qui ont des talents, des dons, qui peuvent faire de belles choses. J'aimerais les inspirer à faire quelque chose de positif. On a passé notre vie à travailler, à élever les enfants. On a fait notre devoir. Là, c'est à nous de vivre. Regardez-moi, si je suis encore en vie, c'est à cause de la peinture. C'était Papy, le peintre qui n'était pas peintre. Une entrevue réalisée par Frédéric Charret, parue le 23 août 2024 dans la revue Virage.
L'art de vivre selon Dany Laferrière. Une entrevue réalisée par Karine Wilder, parue en avril 2024 dans le magazine Bel Âge. Dans son 37e livre, l'académicien Dany Laferrière partage avec nous son art de vivre sous forme de très courts textes. Il nous en parle brièvement ici. Avec un certain art de vivre, Dany Laferrière nous invite à découvrir les réflexions d'un homme qui a choisi de se réfugier dans une île lointaine d'Asie pour cuver sa récente rupture amoureuse. Et ses réflexions vont dans tous les sens. Voyage passé, souvenirs de jeunesse, plongées introspectives, clin d'œil sur le métier d'écrivain ou sur la place du lecteur, méditation poétique. Il y a même quelques jolies perles de sagesse qui font du bien à l'âme. Vous vous êtes réfugié dans un hôtel de Bornéo pour écrire ce livre. C'est là-bas que vous avez couché sur papier tous les petits textes qui composent un certain art de vivre. Vous parlez de moi ou du narrateur? Pour moi, un livre, c'est d'abord un espace pour rêver. Alors, je fais comme dans mon enfance, je me couche dans l'herbe, je regarde le ciel, les nuages, et je m'imagine ailleurs. Je suis tous les personnages qui peuplent cet univers. Le lieu où je me trouve n'existe pas toujours dans la réalité, comme les gens que je croise. Ce qui existe, ce sont mes sentiments. Cette cérémonie se transforme en un livre qui existe pour le lecteur. Et j'espère que ce récit que j'ai imaginé dans l'herbe le fera rêver. Vous voyez, on écrit pour rêver et on lit pour les mêmes raisons. Peut-être que tout ça, c'est pour dire que nous sommes semblables. Quel bien en avez-vous retiré? Je ne sais pas si on écrit pour en tirer un quelconque bien. À mon avis, c'est une cérémonie très étrange où l'auteur se croit seul dans une pièce alors qu'il est entouré d'une foule de gens silencieux qui attendent d'apparaître dans sa page. On ne sait pas trop pourquoi on passe autant de temps à ce jeu. Parfois, je me dis que c'est pour meubler notre solitude. D'autres fois, j'ai l'impression que ça vient d'une curiosité enfantine. Nous sentons que le théâtre, que nous percevons avec ses ombres menaçantes ou accueillantes, ne dit pas toute l'histoire de notre vie, et donc nous voulons savoir ce qui se passe derrière la scène. Je trouve mon bonheur dans la possibilité de rejoindre l'autre dans un riche moment de silence. On revient toujours à ce que disait Platon dans Le Banquet. On se souvient du discours d'Aristophane. Citation. « Embrassés, enlacés l'un à l'autre, brûlant de n'être qu'un, ils mouraient de faim et d'inaction, car ils ne voulaient plus rien faire l'un sans l'autre. » Fin de citation. Même quand il s'agit d'un meurtre, écrire est un acte d'amour. Ce livre comporte 19 parties. L'art de vivre à l'horizontale, l'art du déclin, l'art des choses décousues, etc. Comment avez-vous procédé pour les écrire? Selon l'ordre dans lequel elles apparaissent? Eh bien oui, dans l'ordre que vous voyez là. J'ai beaucoup improvisé après, comme pour une partition musicale. Il me fallait trouver le pilier qui soutient l'édifice, une rupture amoureuse, la raison du voyage dans un pays inconnu, le narrateur veut souffrir en solo comme si cette douleur était un trésor, puis le rythme de chaque strophe. Et ma sensibilité a fait le reste. C'est un homme qui souffre, Donc sa pensée va par tous les chemins, même s'il tente de retrouver une logique dans sa douleur. Son cœur étant trop lourd, il espère trouver refuge dans son esprit pour ne pas se lamenter. Il suit le cours de ses pensées pour oublier Oki, mais bien sûr que c'est impossible. C'est un livre écrit avec beaucoup d'émotion. Je me souviens qu'à Miami, j'ai écrit sur la porte de la petite chambre où je travaillais cette phrase de Montaigne « Je ne fais rien sans gaieté ». Je suis ainsi, et cela même dans une période noire. Pour vous, quel a été le principal défi avec un certain art de vivre? Garder mon esprit vif d'un bout à l'autre. J'ai parlé de musique, mais il s'agit aussi de peinture, des couleurs primaires, des esquisses. Écrire comme un insecte se déplace. Mélanger fiction et réflexion. Ne jamais perdre de vue que l'élégance est notre dernier bien. Pouvons-nous rester dignes au cœur de la tempête? C'est ce qui m'avait sauvé durant le tremblement de terre à Port-au-Prince. Hemingway a raison de croire que le courage, c'est de l'élégance dans les moments difficiles. C'est ce qui se passe aujourd'hui, alors que la cruauté et la vulgarité semblent gagner du terrain. À mes yeux, l'élégance semble l'arme fatale qui triomphera de toute cette boue. Il faut y croire. Et qu'est-ce que vous tenez à ajouter à propos de ce 37e livre? Je crois avoir tout dit. Il faudrait le lire pour les détails. On dit que le diable se cache dans les détails. La poésie aussi. Avant de terminer, pouvez-vous nous dire où vous vous trouvez présentement? Je suis dans une chambre près d'une gare, donc toujours prêt à partir. Couché dans le lit avec quelques livres, une orange et un verre de vin près de ma tête. La fenêtre près de la table est ouverte. Une douce lumière baigne la pièce. Vous permettez que je cite un passage du livre « Le repas du soir » ? Citation. J'ai parfois le sentiment de mener une vie de chien, d'être assis là, comme ça, à manger sans personne en face de moi. La lune dans la fenêtre. Souvent, cette même situation me donne l'illusion d'être aussi puissant que n'importe quel prince. Alors, je me tiens plus droit sur la chaise, laissant flotter sur mon visage un air d'indifférence absolue. Le monde peut s'écrouler, je suis en tête à tête avec moi-même. Fin de citation. Voilà, je mène une vie de moine pour mieux vous rejoindre. C'était L'art de vivre selon Dany Laferrière, une entrevue réalisée par Karine Wilder, parue en avril 2024 dans le magazine Bel Âge.